sur votre téléphone au 0892 68 10 33. 34 centimes d'euros la minute.
Et on termine avec l'arrivée des courses à Vincennes, arrivée provisoire du Quintet Plus, engagé dans la première. Le 11 était non partant, premier le 4, deuxième le 6, troisième le 5, quatrième le 18 et cinquième le 14. Il est 14h03 sur France Inter. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des figures les plus singulières du siècle de Louis XIV, la Grande Mademoiselle.
Elle voulut une distinction au-dessus de sa belle-mère et de ses sœurs, bien que de rang égal. Et elle voulut être nommée tout court mademoiselle. Et comme elle ne se maria pas, à son grand regret, elle fut tout court mademoiselle toute sa vie. Saint-Simon.
D'histoire. Petite fille de Henri IV, nièce de Louis XIV, de Louis XIII et cousine de Louis XIV, Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite la Grande Mademoiselle, était la plus riche héritière de France. Convoitée pour sa fortune par tous les princes d'Europe et même par la mère de Louis XIV qui avait pensé un moment lui faire épouser son fils, elle ruina ce projet en participant à la Fronde et en faisant même tirer le canon de la Bastille sur les troupes du roi. Excentrique, orgueilleuse, consciente de son rang, la Grande Mademoiselle partageait le goût du complot qu'avait son père, Gaston d'Orléans, qui toute sa vie avait rêvé d'être roi de France alors qu'il n'était que le frère cadet de Louis XIII.
Son Altesse Royale, Monsieur, Duc d'Orléans. Regardez s'il est triste. Étant du roi Louis XIII, il ne se consolait pas d'être le frère. Maintenant, il ne se console pas d'être l'oncle. Et il n'est même pas roi de la guerre, puisque Condé prend tout. Et même pas le roi des frondeurs, parce que le courage lui manque. Oh, comment ne pas être triste avec un rejeton comme cette grande fagotée? Vous avez vu, mademoiselle?
Ma chère, je vais me fermer les yeux.
Christian Bouillet, bonjour.
Bonjour.
Alors cette grande fagotée, comme on vient de l'entendre, c'est la Grande Mademoiselle, dont vous venez d'écrire la biographie chez Pygmalion, un personnage considérable à la cour de Louis XIV, puisqu'elle était sa cousine, ce qui faisait au fond d'elle, dès sa naissance, un des personnages les plus importants du royaume. C'était pas une figurante à la cour.
Absolument pas. La Grande Mademoiselle, c'est un personnage extrêmement important, qui a traversé le siècle, mais on va y revenir. Elle était une fille de France. Fille de France, elle était née donc, on dirait, aux marches du trône. Elle était donc la fille de Gaston d'Orléans, le frère de Louis XIII, la petite
qu'on
fille
appelle monsieur.
Qu'on appelle monsieur, dont on reparlera. Elle était la petite fille de Henri IV et la cousine de Louis XIV. Mmh. Et une fille de France, mais c'était aussi une vraie Bourbon. C'est-à-dire que la famille royale des Bourbons, il y avait les hommes qui étaient dans la tradition des personnages assez exceptionnels, Henri IV, même Louis XIII et surtout Louis XIV, mais les frères cadets, que ce soit Gaston d'Orléans ou Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, c'était des Médicis. Hein. Il y avait le sang de Marie Médicis dans leurs veines. Et la Grande Mademoiselle est la seule femme de la famille des Bourbons qui était une véritable Bourbon.
Et puis importante aussi parce qu'elle était immensément riche. C'était la plus grande fortune d'Europe, dites-vous.
Oui, puisque sa mère, Marie de Montpensier, était la plus riche héritière du royaume déjà dans les années 1626-1627. Elle avait beaucoup de prétendants et Richelieu et Louis XIII ont voulu lui faire épouser le frère du roi, Gaston, pour récupérer, bien entendu, la fortune.
Oui, parce que la fortune, tout le monde la convoite. Hein, on ne compte plus ni ses titres. Elle était d'ailleurs duchesse de Montpensier quand sa mère est morte. C'est vrai que c'est triste parce que c'est pathétique, sa mère est morte quelques jours à peine après sa naissance,
cinq
en 1627.
Jours après, oui. Cinq jours après, elle est morte de ses couches, et la Grande Mademoiselle s'est trouvée orpheline. Orpheline de mère, elle me dit dans ses mémoires, d'ailleurs au début, le malheur de ma maison vient du fait que je n'ai pas connu ma mère. Et elle a un père complètement excentrique, qui est Gaston d'Orléans.
Qui pense qu'à ses maîtresses,
qui se dresse contre Richelieu, qui se dresse contre Louis XIII, mais nous savons pertinemment que Louis XIII et Anne d'Autriche ayant eu un enfant, 23
oui,
ans.
Parce que, il faut préciser, Gaston d'Orléans
pense aussi au trône. Il faut rappeler que pendant des années, il était l'héritier du trône, étant donné que Louis XIII, son frère aîné, n'avait pas d'enfant avant Louis XIV.
Exactement.
Et donc, si Louis XIII était mort avant, il aurait été roi de France, et du coup, la grande mademoiselle aurait été sa fille.
Mais Gaston aurait été roi de France, et on envisageait déjà de lui faire épouser Anne d'Autriche. Mmh. Anne d'Autriche elle-même y avait pensé. Alors, ce Gaston d'Orléans qui va en exil, qui complote contre son frère...
Il complote en permanence, il n'arrête pas.
Il complote en permanence, et c'est le père de la grande mademoiselle. Ben, il n'empêche, ce père complètement instable, sa fille va lui vouer une piété filiale extraordinaire, et on verra que c'est lui qui va la conduire dans la fronde, et à se révolter contre son oncle.
Oui, enfin, en attendant, cette fronde qui va être contre Louis XIV, puisque Louis XIII est mort entre-temps, Louis XIV, en revanche, au début, il n'a que 10 ans quand sa cousine, justement, la grande mademoiselle, s'intéresse particulièrement à lui.
Je veux voir Louis. Ne me bousculez pas. Un roi ne bouscule pas la plus riche princesse d'Europe. Il l'épouse et devient le plus heureux, le plus riche des rois. Vous êtes petit, je suis grande. Mais dans un accouplement royal, on oublie ces détails. Toutes les nuits, dans mes rêves, Dieu vous fait grimper sur moi. Comme un cerf, comme un aigle, comme un roi. Dieu prépare mes entrailles à vous accueillir.
C'était un extrait de l'excellent film de Roger Planchon, Louis enfant roi. Louis XIV, que sa cousine, vous le dites, Christian Bouillet, appelait mon petit mari. C'est pas étonnant quand même.
Oui, mon petit mari. Oui, mon petit mari. Mais on avait mis cette idée dans la tête de la grande mademoiselle dès la naissance du petit roi. Et c'est Anne d'Autriche qui disait à sa nièce qu'elle avait en partie élevé, au Louvre et aux Tuileries. Et elle lui disait, tu seras ma belle-fille. Et, le dauphin, à l'époque, sera ton mari. Alors, il y a un personnage à qui ça ne plaisait pas du tout, c'était Richelieu. Et un beau jour, il a fait venir la grande mademoiselle qui avait à ce moment-là 11-12 ans, à Rueil, où il était, et il lui a donné des sucreries et des bonbons, mais il lui a dit, il faut chasser ça de votre tête que j'entende plus parler de cela. Alors que c'était un d'Autriche qui lui avait dit.
C'était sa cousine, elle avait 11 ans de plus que lui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais enfin, des mariages à l'époque dans les familles royales, 11 ans, ce n'était pas un problème.
Mais d'autant plus que la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche, on dit que ça l'intéressait pas mal d'avoir au fond pour belle-fille la grande mademoiselle, parce que avec elle, c'était toute la fortune qui venait à la cour,
qui venait en tout cas dans la famille
royale.
Il y avait toute la fortune des Montpensier, c'était quand même 500 000 livres de revenus par an, des terres et puis d'autres revenus. Donc c'était quelque chose d'énorme, c'était un tiers des revenus d'une généralité du royaume pour l'impôt de la taille. Mmh. Donc c'était quelque chose de considérable. Mais je crois que Anne d'Autriche connaissait très très bien la grande mademoiselle, que Anne d'Autriche pensait que ce serait très bien, mais jusqu'où est-ce que cela a été sérieux, on ne sait pas. Mais l'idée d'un mariage va quand même perdurer jusqu'à la Fronde, et on sait que Mazarin dira avec son accent inimitable quand la grande mademoiselle fera tirer le canon de la Bastille, ce canon-là vient de tuer son mari,
oui, parce
et ne sera jamais reine de France.
Là, c'est déjà compliqué, la Fronde. Oui. Alors, quand elle commence, la grande mademoiselle, elle est plutôt fidèle au roi, à Louis XIV, elle va le suivre, ainsi que sa mère et Mazarin, elle va suivre Louis XIV au château de Saint-Germain. Et puis alors, en 1652, la Fronde commence en 1649, en 1652, la grande mademoiselle rejoint la Fronde des Princes avec Condé, et elle va même prendre la ville d'Orléans. C'est une femme extraordinaire, un peu comme Jeanne d'Arc, sauf qu'elle prend la ville d'Orléans à Louis XIV. Elle se dresse en armes contre Louis XIV, contre son cousin.
Oui. Absolument. Mais je crois qu'il faut résumer, mais très très rapidement, la Fronde. Il y a eu la Fronde parlementaire à partir de 1648, où les cours souveraines, qui ont commencé déjà à spolier au point de vue financier, ont s'attaqué à leur argent parce qu'il n'y avait plus un sou dans les caisses de l'État, et la guerre continuait. Donc, les cours souveraines se sont révoltées, mais ça s'est terminé en 1649, grâce à Condé. Alors, Condé a dit qu'il était le sauveur de la monarchie. Il considérait qu'on ne faisait pas suffisamment pour lui. Ce qui fait qu'il se montrait extrêmement arrogant. Et à ce moment-là, Mazarin et la reine en ont eu assez. Elles l'ont fait arrêter en 1650. On l'a libéré en 1651. Et comme on lui donnait toujours pas ce qu'il voulait,
il prend les armes.
La France, les provinces de France se révoltent. Mmh. Et la cour et les armées font la reconquête du royaume de France. Et on occupe, après Bordeaux, on arrive jusque sur les bords de Loire, Blois et toutes ces cités-là. Mais Orléans et du côté de la Fronde des Princes. Et Gaston d'Orléans, qui ne voulait pas prendre les armes lui-même, il va envoyer sa fille pour la cause de la Fronde des Princes. Et au mois de mars, elle est partie avec des Amazones de la Fronde pour aller jusqu'à Orléans.
Et puis alors, après avoir pris Orléans, elle va à Paris, et là, il va se passer un épisode extraordinaire, Christian Bouillet.
Oui, tout à fait. C'est les fameux canons de la Bastille qui ont laissé dans l'histoire une tache, d'ailleurs, sur l'image de la Grande Mademoiselle.
Rappelez-nous ce qui s'est passé. Condé pourchassé par l'armée royale.
Oui, l'armée royale était à Étampes. Condé s'était rapproché de Paris. Il était à Saint-Ouen. Et puis, il voulait entrer dans Paris, mais les portes de Paris étaient fermées. Et l'armée royale le pressait. Et on a fait ouvrir les portes de Paris. Et pour retarder l'armée royale, eh bien, Gaston d'Orléans a signé un papier. Il a donné à sa fille pour le commandant de la Bastille. Elle est allée là. Elle a fait tourner les canons du côté de l'armée du roi qui était du côté de Nation actuellement et puis des collines un peu plus loin dans le bois de Vincennes. Et elle a fait tirer les canons de la Bastille sur les troupes du roi.
Pour sauver Condé.
Pour sauver Condé.
Condé, nous allons tous crever.
Ils sont trois fois plus nombreux que nous. Aidez-nous, princesse.
C'est folie!
Oui, mon père, c'est folie! Braquez les canons! Ouvrez le feu! Et les portes de Paris!
C'est folie!
On dit que la grande mademoiselle sur les remparts a fait tirer du canon contre le roi. Contre le roi. Seigneur mon Dieu, que Dieu lui pardonne. Dieu peut-être.
Monsieur, en exil à Limoux. Mademoiselle, au diable, à Saint-Fargeau.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la Grande Mademoiselle.
Et vous entendez le ballet de la nuit de Lully, Lully qui avait suivi la Grande Mademoiselle dans son château de Saint-Fargeau en Bourgogne, puisqu'elle a été, évidemment, à cause de son attitude pendant la Fronde, Christian Bouillet, elle a été envoyée en exil.
Absolument. Le roi et la cour rentrent à Paris en octobre 1652 et ils font le ménage très rapidement. Monsieur est expédié sur sa terre de Limours et la Grande Mademoiselle, on lui dit d'aller où elle veut. Alors, elle sait pas trop où aller et elle va finir par choisir le château de Saint-Fargeau en Puisée, hein, c'est-à-dire dans Lyon actuellement.
Où elle va tenir une véritable cour.
Ah, elle va tenir une petite cour là-bas. Elle va faire beaucoup de choses. Elle va faire, pas reconstruire, mais améliorer énormément son château. Elle va monter des pièces de théâtre. Elle va commencer à écrire ses mémoires.
Elle accueille Lully. Hein.
Et elle accueille un petit bonhomme qui vient d'Italie, qui s'appelle Lully, qui va devenir un des plus grands musiciens du XVIIe siècle. Et il est curieusement marmiton chez elle. Ah oui. Autrement dit, c'est un marmiton comme on voit dans le film sur le cuisinier des princes de Condé à Chantilly.
Vatel,
voilà. Ouais. Un marmiton de Vatel, notre Lully a été un marmiton comme cela. Hein.
Alors, elle va revenir à la cour, elle revient en grâce, hein, 2 ans plus tard, parce que Louis XIV peut quand même pas se passer de sa cousine, et il lui pardonne, en fait. Elle va même d'ailleurs l'accompagner à Saint-Jean-de-Luz, lorsque Louis XIV va se marier en 1660.
Oui. Alors, vous savez que le mariage du roi s'est fait après la paix des Pyrénées, hein, qu'on avait envisagé, pour accélérer le processus de paix, de marier Louis XIV, parce qu'il était très épris de Marie Monsigny, hein, donc il fallait absolument lui faire oublier Marie Monsigny. On avait envisagé de lui faire épouser la duchesse de Savoie, toute la cour va à Lyon, et puis Mazarin obtient avec l'Espagne donc le traité des Pyrénées et le mariage avec l'infante espagnole. Donc en 1660, il y a le mariage de Saint-Jean-de-Luz, et la Grande Mademoiselle suit sur les routes de France la cour, bien entendu.
Alors à ce moment-là, Christian Bouillet, elle a, je crois, 33 ans, hein, elle n'est toujours pas mariée, alors qu'en fait, on lui a proposé des tas de prétendants, même avant la Fronde. C'est une femme très demandée. Et elle refusait tout le monde, pratiquement.
Ah, bah oui, mais là.
Il y a eu des rois, quand même.
Mais oui,
d'abord, il y a
oui.
eu Charles, enfin, il y a eu le prince de Galles, le futur Charles II.
Tout à fait.
D'Angleterre.
Tout à fait. Elle a eu une quantité de prétendants, mais disons tout de suite, c'est que tous ces gens-là ne lui pesaient pas. On va voir pourquoi. Le premier des prétendants, ça a été, le comte de Soissons. Elle était très jeune. Il avait été évincé par Gaston pour la main de Marie de Montpensier. Vexé de pas avoir la mère, il a voulu avoir la fille, puis ça s'est pas fait, puis il est mort en 1841 à la bataille de la Marfée. Ensuite, il y a le frère de Anne d'Autriche, Ferdinand, mais il meurt, donc pas possible. Et puis, il y a, à partir de 1646, il y a puisque c'est la guerre civile en Angleterre, que la reine d'Angleterre, Henriette, est en France, et il y a son fils, le futur Charles II d'Angleterre, qui est intéressé, mais c'est sa mère qui le pousse, il est intéressé à épouser la grande mademoiselle, surtout pour lever des armées, il est intéressé par sa fortune. Ça paraît évident.
Et mais ça va elle, durer... ça l'intéresse oui. pas. D'ailleurs, il y a peu de partis qui l'intéressent. Vous écrivez, le parti le plus digne d'intérêt sera toujours pour elle le plus prestigieux, le plus élevé. Toute autre considération est absente de son esprit, notamment l'amour.
Oui, mais bien sûr, je crois pas qu'elle pense à l'amour du tout, sauf peut-être dans sa passion avec Lauzun, on le verra plus tard. Mais on voit par exemple qu'à un moment donné, l'empereur Ferdinand est veuf, eh bien, elle sait que c'est quelqu'un de très religieux, hein, et elle se met tout d'un coup à s'habiller en noir, à fréquenter les monastères, les abbayes.
Ah oui, ça l'intéresse, un empereur, c'est pas mal, c'est
et puis, ça ne se fait pas. Ensuite, il y a d'autres prétendants, mais c'est vrai que elle veut épouser un trône plutôt qu'un homme.
Oui. Et encore, elle refuse. Hein. En 1661, elle refuse du roi du Portugal. D'ailleurs, c'est qui va lui valoir un deuxième exil. Louis XIV est furieux. Il voulait absolument qu'elle épouse le roi de Portugal. Il faut dire que c'était un peu un dingue. Hein.
Oui, alors moi, j'aime beaucoup la grande mademoiselle parce que j'ai vécu beaucoup avec elle. Je comprends tout à fait qu'elle avait refusé d'épouser le roi du Portugal. Hein. Alphonse VI, c'était un personnage. Non seulement c'était un benêt, mais c'était un fou. Hein. Sa plus grande distraction, c'était d'arracher les cheveux de ses courtisans ou bien de tirer les oreilles, et il portait 6 habits sur lui parce qu'il avait peur d'être assassiné. Il sortait la nuit avec quelques spadassins, et sa grande idée, c'était de tuer quelques badauds dans la rue, ou quelques... Bon, tout ça, c'est
plutôt
pas...
plutôt dangereux. Hein, bon,
ouais. En plus, c'était quelqu'un qui était complètement impuissant, c'était quelqu'un qui avait des gros, gros problèmes de santé, hein, et c'est quelqu'un qui était répugnant. C'était quelqu'un de répugnant.
Donc,
alors, elle le savait, elle ne voulait pas du tout épouser ce bonhomme-là.
Elle est un peu féministe, d'ailleurs vous le dites au début, vous citez une très, jolie, très belle phrase de ses mémoires. Enfin, tirons-nous de l'esclavage qu'il y ait un coin du monde où l'on puisse dire que les femmes sont maîtresses d'elles-mêmes. Hein, c'est assez extraordinaire dans la bouche de cette femme, une féministe bien avant la lettre.
Oui, mais lorsqu'elle a écrit ce texte, elle n'a pas encore connu les blessures de l'amour qu'elle aura avec Lauzun. Elle a déjà, à ce moment-là, écrit les récits de Ville invisible où elle... parle du désert, où on doit aller dans un désert pour réfléchir sur soi, vivre un peu comme un moine, comme une nonne isolée. Donc, c'est une réflexion, mais c'est une réflexion sur la femme, et elle trouve que la femme est quand même, dans ce siècle, mal ressentie, mal...
En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas pressée de se marier, en tout cas, pas avant la rencontre avec le seul homme qu'elle ait aimé, la revue de texte Stéphanie Duncan.
La grande mademoiselle a quelques réticences avec le mariage. Des moments, je me voulais bien marier, écrit-elle dans ses mémoires. D'autres, je ne m'en souciais pas. Elle me fait penser un peu à cette précieuse ridicule de Molière, une pièce écrite à la même époque, qui disait « Le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. En venir du but en blanc à l'union conjugale, c'est prendre le roman par la queue. » En ce que mademoiselle désire, elle aussi, c'est d'abord la gloire et l'amour. D'une manière d'ailleurs très théâtrale, par exemple en 1646, à un bal donné à la cour, en l'honneur du prince de Galles, futur roi d'Angleterre et prétendant possible, elle, vêtue de ses plus beaux atours, grimpe sur un trône de théâtre qui se trouve là et vit une sorte d'extase. « Sur ce trône, dit-elle, je demeurai seule, de sorte que je vis à mes pieds le roi et le prince de Galles et ce qu'il y avait de princesse de la cour. Tout le monde ne manqua pas de me dire que je n'avais jamais paru moins contrainte que sur ce trône. » Et du haut de ce trône de pacotille, Mademoiselle s'imagine non pas reine d'Angleterre, hein, c'est vraiment trop nul, mais carrément impératrice. La pensée de l'Empire occupait si fort mon esprit, dit-elle, que je ne regardais plus le prince de Galles que comme un objet de pitié. Oh, mais son rêve impérial va s'écrouler. Finalement, en 1669, Mademoiselle découvre l'amour avec non pas un roi, mais un simple comte, Monsieur de Lauzun. Je le regardais, dit-elle, comme le plus honnête homme du monde, le plus agréable, et rien ne manquait à mon bonheur que d'avoir un mari fait comme lui. Alors Mademoiselle, qui a 43 ans, ne doute pas de ses charmes. « Je suis grande, dit-elle, ni grasse ni maigre, d'une taille fort belle et fort aisée, la gorge assez bien faite, la jambe droite et le pied bien fait, mes cheveux blonds cendrés, le nez grand et aquilin, les lèvres vermeilles, les dents point belles mais pas horribles, mes yeux sont bleus, ni grands ni petits, mais brillants, doux et fiers comme ma mine. » Après bien des atermoiements, Louis XIV accepte le mariage. À la cour, on n'en revient pas. Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus inouïe, la plus incroyable, écrit Madame de Sévigné à un ami. Monsieur de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui ? Il épouse Mademoiselle, ma foi jurée, Mademoiselle destinée au trône. Mais hélas, tout s'écroule. Quelques jours plus tard, Louis XIV annonce lui-même à sa cousine qu'il refuse ce mariage. Il est superflu de vous dire avec quelle douleur elle reçut la chose, racontera le roi. Combien elle répandit de larmes et de sanglots et se jeta à genoux comme si je lui avais donné 100 coups de poignard dans le cœur. Quant au comte de Lauzun, ajoute Louis XIV, il reçut la nouvelle avec toute la constance et la soumission que je pouvais désirer.
Étonnant cette passion de la grande mademoiselle pour le marquis de Lauzun. Elle a repoussé des rois, elle a repoussé ou renoncé à un empereur, et la voilà qu'à 43 ans, voilà qu'elle tombe amoureuse d'un capitaine.
Oui, c'est très curieux, et d'ailleurs, Barbet de Rivier a écrit une magnifique page là-dessus, sur cette nef de 43 ans qui est mûre pour l'amour, soudainement. Écoutez, elle a 43 ans, elle se rend compte qu'elle vieillit, qu'elle commence à avoir des cheveux blancs, et tout d'un coup, dans cette cour de Louis XIV où beaucoup tout le monde s'amuse beaucoup, elle se dit ben pourquoi pas moi finalement, hein. Et elle se rend compte que tout
mais même c'est même pas un calcul, on sent bien en vous lisant,
oui, c'est une passion. C'est devenu spontanément. Alors l'auteur, c'est Lauzun, il s'appelle pas encore Lauzun, hein, non par de Caumont, marquis de Puyguévin, qui se viendra duc de Lauzun. Par la suite, c'est un cadet de Gascogne arrivé à la cour très tôt, qui devient capitaine d'une compagnie de soldats du roi, et c'est un homme couvert de femmes, c'est un séducteur. Saint-Simon disait de lui que c'était un petit homme blondasse. Faut quand même pas oublier qu'il a disputé au roi la princesse de Monaco.
Oui, mais alors, il aime pas, ça se voit bien, il aime pas la grande mademoiselle, en tout cas s'il l'aime, c'est pour son argent. Louis XIV accepte dans un premier temps qu'elle se marie avec lui, et puis il refuse, alors c'est un véritable drame, et plus dramatique encore, pour la grande mademoiselle, Louis XIV l'envoie en prison, dans une prison qui est encore pire que la Bastille, c'est Pignerol, là où était enfermé Fouquet, là où était enfermé le Masque de Fer. C'est extraordinaire cette histoire. Pendant 9 ans, elle est séparée de lui, elle reste amoureuse de lui. Pourquoi est-ce qu'il est envoyé en prison? C'est pas à cause d'elle d'ailleurs.
Plus ou moins. On a dit que c'était pour avoir livré à l'ennemi, parce qu'on était en train de se lancer dans la guerre de Hollande, avoir livré des plans de bataille à l'ennemi. On voit pas Lauzun, favori du roi, livrer des plans de
surtout,
bataille.
Surtout, il a insulté la maîtresse du roi, qui était Madame de Montespan.
Il a insulté Madame de Montespan, il l'a traité de bougresse de putain, de putachien.
Bah, et ce quoi, qui, il évidemment, était courageux quand même, le père Lauzun.
Hein, évidemment, ça n'a pas plu à la duchesse, qui a été se plaindre au roi, et le roi a dit, Lauzun ne veut pas obéir, on va le briser.
Alors 10 ans de prison, elle n'arrive pas à le voir, ou elle le voit très peu, et alors surtout ce qui est affreux, c'est que finalement elle va tout faire pour le faire libérer, elle va même léguer une partie de sa fortune à un fils naturel de Louis XIV, c'est-à-dire à un fils de Madame de Montespan, pour pouvoir récupérer. C'est ça un chantage affreux que fait Louis XIV.
Ah ben c'est une véritable rançon qui va être organisée par le roi, mais surtout Madame de Montespan. Le petit bâtard boiteux, le duc du Maine, donc on voulait lui donner une fortune, et Madame de Montespan, la belle Athénaïs, a négocié avec la grande mademoiselle, voilà, pour mon fils, le comté de E, qui était la première pairie du royaume, et puis la principauté des Dombes, et on va faire sortir Lauzun de prison. Mmh. Donc, on va faire Dix ans après, il sort en avril 1681, et là, donc, il va rejoindre peu à peu la grande mademoiselle.
Ouais, enfin, il va la rejoindre, et puis, en fait, il la trompe. Je crois qu'il y a eu un mariage secret, hein, parce qu'en fait, elle s'est mariée secrètement avec lui, mais elle se rend compte très vite que il se moque complètement d'elle, il se fiche d'elle.
Tout à fait.
Hein, et elle va même le chasser en 1684. C'était un déchirant. C'est vraiment pathétique, la fin de cette grande mademoiselle. Ensuite, elle va encore passer 9 ans toute seule. Elle ne revient même plus à la course, elle n'intéresse plus.
Oui.
Elle qui écrivait, elle s'arrête soudain d'écrire ses mémoires. Si elle se met à écrire des livres pieux, elle tombe confite en dévotion.
Oui. Mais cette femme qui a été au départ une héroïne de Corneille, on voit à la fin qu'elle est une héroïne de Racine, et c'est vrai qu'elle est tombée vraiment avec Lauzun sur un sale type, et le grand amour qu'elle a eu pour lui, cette passion n'a certainement pas été partagée. C'était un homme intéressé et un personnage très petit.
Et elle-même, alors, parce que la postérité n'a pas été toujours très tendre, les historiens notamment avec elle.
Mais oui, parce que dans ce siècle où tout était grand, où on l'a appelée même la grande mademoiselle, eh bien, on se rend compte tout de même où l'amour jouait un rôle très important. Il n'y avait pas seulement la carte du tendre, mais il y avait les réalités. Et cette princesse royale, on ne comprenait pas qu'elle n'arrive pas du tout soit à se marier, soit au moins à avoir une véritable relation avec quelqu'un à sa hauteur et de son rang.
Elle est morte donc en 1693. Où est-ce qu'elle est passée cette fortune immense qu'elle avait?
Alors, sa fortune a été léguée par testament donc au frère de Louis XIV, monsieur Philippe d'Orléans. Le château de Choisy a été donné au grand dauphin et tout le reste a été partagé entre divers héritiers, mais une grande partie à Philippe.
Et plus rien pour elle.
Elle n'avait pas de descendant du tout.
Merci en tout cas, Christian de Bouillet, de nous avoir raconté l'histoire de cette femme tout à fait étonnante, la grande mademoiselle. Pour en savoir plus, je recommande justement la lecture de votre livre, La grande mademoiselle, qui a été publiée aux éditions Pygmalion. Vous êtes également l'auteur d'un autre livre, entre autres, Le Duc d'Orléans, frère de Louis XIV, c'est-à-dire Philippe, celui qui a hérité de toute la fortune de la grande mademoiselle. Un livre qui a été publié également chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits du film Louis, enfant roi, de Roger Planchon, et de Mazarin, une très belle fiction de Pierre Cardinal, interprétée par François Perrier. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation Claire Destacan et Claire Tessert, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, un triste anniversaire. Il y a 60 ans, l'exécution de 22 résistants du groupe Manoukian, ceux dont les Allemands ont exhibé la photo sur une affiche célèbre, l'affiche rouge des étrangers fusillés au Mont-Valérien le 20...